Amis potonautes, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro dont On refait le mastre, l'émission radio de Poteau Carré. Avec moi ce soir, l'équipe habituelle, on ne change pas une équipe qui gagne, avec Verivel à la technique, Verivel qui va nous surveiller le forum, le chat de YouTube et tout le tralala. Salut Verivel.
Salut, bonsoir à tous, très content d'être avec vous ce soir.
Eh oui, bien sûr, puisqu'on va pouvoir peut-être parler de choses positives au sujet des Verts, essentiellement positives. Par hasard, je l'ai déjà dit, je le répète, auteur de La Passion selon Saint-Étienne, disponible dans toutes les bonnes librairies. Salut, par hasard.
Salut à tous, et j'espère qu'à partir de dimanche, je commencerai pas mon deuxième tome, La Dépression selon Saint-Étienne.
Non. Non, il y a quand même, quoi qu'il arrive, il y a quand même des perspectives intéressantes. Avec nous également, Pat. Salut, Pat.
Salut, Osvaldo. Bonjour à tous. Et oui, il faut rester positif. On va y
croire. Pat la dent dure, on va te surnommer, parce que j'ai vu tes petits commentaires après le match contre Rouen. Bon, on en parlera un peu, peut-être. et puis, Dissident également, fidèle des fidèles de l'émission. Salut, Dissident.
Salut Osvaldo, salut à tous, et ravi d'être avec vous pour cette semaine qui s'annonce longue et passionnante.
Oui, et stressante. Moi j'ai envie de dire stressante aussi, c'est vrai que j'ai du mal à n'être que dans le plaisir quand il y a des échéances de ce type, et là ça va être très très chaud. Alors, on va évoquer ensemble, évidemment, le match contre Rodez, grosse émotion, grosse ambiance, grosse prestation peut-être aussi, on va en parler, vous direz si vous avez trouvé la prestation de qualité. On va envisager le duel en match aller-retour contre Metz, pour ceux qui vivent sur Mars, je vous rappelle, match aller jeudi à Geoffroy et retour à Saint-Symphorien dimanche. Et puis, ça me paraît de bonne guerre, nécessaire même, d'évoquer la vente du club qui, cette fois-ci, semble vraiment bien parti. Alors, le match contre Rodez avec une grosse ambiance, un enjeu fort, avec des interrogations parce qu'il y avait quand même une sorte de petite déprime chez les supporters avant ce début des play-offs, puisque maintenant on appelle ça play-off. Bon, ça reste des barrages au bout du compte. Par hasard, on commence avec toi. Est-ce que cette rencontre t'a agréablement surpris, ou est-ce que tu t'attendais à une performance de ce type des Verts?
C'était compliqué de s'attendre à une performance de ce type au vu des précédents matchs et de notre incapacité à conclure les balles de match qu'on avait eues, que ce soit contre Rodez déjà, mais un peu avant à Guingamp, même si ce n'était pas vraiment une balle de match, mais ça y ressemblait, et puis à QRM. Donc, c'était compliqué d'être très optimiste. Il y avait un élément objectif quand même qui jouait en notre faveur, et ça s'est confirmé, c'est la fatigue de Rodez, qui a eu la bonne et heureuse idée d'aligner exactement le même 11 contre nous que 3 jours avant contre Paris FC. Et il faut aussi se souvenir quand même que c'était leur 3e match en 7 jours qu'ils jouaient. Donc il y avait cet élément un peu positif qui pouvait nous rassurer un peu, sachant qu'il faut reconnaître qu'on était un peu au fond du trou après l'enchaînement des 3 matchs où on n'avait pris que 2 points. Pour conclure la saison. Donc, un optimisme très mesuré, un optimisme un peu rationnel au vu de la nature de l'opposant et en particulier de sa fatigue, mais très mesuré compte tenu du bilan des matchs précédents. En tout cas, moi, c'est comme ça que je suis arrivé sur ce match.
Donc, on peut dire que tu as été plutôt agréablement surpris. Pat, on va enchaîner avec toi. Pat la dent dure, j'ai dit, parce que c'est vrai que j'avais été un peu frappé de tes commentaires acerbes après la défaite à Rouen, alors que moi, j'avais plutôt trouvé que les Verts avaient fait un match, pas extraordinaire, mais au moins honorable. Je suppose que, du coup, voir cette envie, voir cette énergie, parce qu'il faut en parler, il y avait de l'énergie, il y avait de l'engagement sur le plan athlétique et une belle performance, à mon avis. Je suppose que tu as été agréablement surpris, tout comme par hasard.
Oui, alors pour revenir un peu sur mes commentaires après QI, moi j'avais été extrêmement déçu au final de qu'on soit passé à côté comme ça de cette montée directe alors qu'elle nous tendait les bras, quoi. Et sur ce match à QI, on a clairement, si on a mis certains ingrédients comme de l'intensité, c'est vrai qu'on a poussé, on a dominé ce match-là, mais en même temps, on jouait contre une équipe en vacances qui du coup était ravie de se faire dominer chez elle comme ça et qui a su nous contrer. Et moi, j'ai trouvé qu'on n'avait pas mis les ingrédients, notamment dans la volonté de crever les filets adverses. On s'est beaucoup trop précipité. Enfin bref. Et surtout, au final, en deuxième mi-temps, on est retombé dans nos travers en enchaînant vraiment. Enfin, pour moi, j'étais vraiment très, très déçu et je pensais qu'on était passé vraiment à côté de quelque chose de grand. Et je pense que ma déception était à la hauteur, au final, de ce qu'on avait raté. Donc, je me suis un peu calmé depuis. Et pour revenir sur ce match du coup de Rodez, j'espérais, oui, une réaction en tout cas pour montrer qu'on pouvait dominer un adversaire qui nous a posé tellement de problèmes depuis 2 ans qu'on n'avait jamais battu et qui en plus se permettait de presque venir nous dominer chez nous. Hein. Le match de championnat qu'on fait à Geoffroy contre eux, si on le perd, au final, c'est pas un scandale non plus. Et au final, ce qu'on a vu sur ce match de vendredi, c'est une équipe qui effectivement a dominé son adversaire dans l'intensité, dans l'engagement et au final qui a gagné très logiquement. Moi, ce que j'ai été content de voir, c'est de constater que l'équipe a réussi à maintenir, avec plus ou moins certaines périodes un peu quelques creux, mais sur quasiment tout le match, une intensité forte, beaucoup de volonté d'aller marquer, d'envie d'aller de l'avant, et c'est quelque chose qu'on n'a pas tout le temps vu cette saison, loin de là, et face à une équipe qui nous avait posé tant de problèmes, mais qui était, il est vrai, pour revenir à ce que disait par hasard, un peu fatigué quand même de son match il y a 3 jours, et ben ça a permis de faire ce match presque référence qu'on a vu du coup vendredi.
Ouais, alors tu dis on n'a pas souvent vu une telle constance dans l'intensité. Moi, j'ai l'impression qu'on l'a jamais vu, hein. Mais c'est vrai que ça a été le point qui m'a le plus étonné. Alors, à la suite donc de cette défaite à Rouen, vraiment l'ambiance était morose, il y avait un pessimisme énorme par rapport aux playoffs. Dissident, est-ce que tu penses que cette rencontre face à Rodez, match presque référence, dit Pat, est de nature à faire renaître un espoir pour la montée?
Oui, après c'est un peu la nature aussi du supporter de faire ces montagnes russes émotionnelles. Mais, si on prend un peu de recul, moi je trouvais par rapport au match à Quevilly, pour moi c'est pas là-bas qu'on rate la montée, parce que ce match-là c'est un match un peu typique dans la saison que tu domines et que tu peux perdre. Là, pas de chance pour nous, c'est arrivé à la 38e journée. Mais si on regarde les statistiques, c'est intéressant, en fait, entre match de QVI et de Rodez, c'est quasiment identique en termes de frappe. On fait même un tiers de plus à Rouen. En termes de possession, de passe, c'est vraiment des matchs qui se sont ressemblés. Et à QVI, ce qui nous a manqué, c'est qu'on a... On a un peu moins cadré, on a été peut-être un peu moins incisif devant le but. Et aussi, on a eu la malchance d'encaisser un but sur la première occasion ou presque des adversaires, ce qui n'est pas arrivé contre Rodez. Mais en allant vraiment chercher forcer le trait un petit peu, je dirais qu'il n'y a pas eu autant d'écart entre les deux matchs que les supporters le font dans l'analyse, en fait. Pour moi, on a quand même montré sur le match à Quevilly et encore plus sur le match à Rodez, qu'on était capable de faire un match de 90 minutes sans avoir de gros creux. On n'en a pas eu à Quevilly, on n'en a pas eu contre Rodez. D'arriver à mettre le ballon devant les cages, de pas baisser les bras. Et au final, on est récompensé contre Rodez. Et c'est effectivement de bon augure pour la suite, parce qu'il faudra vite remettre tous ces ingrédients-là contre Metz.
Oui, tous ces ingrédients-là et peut-être plus. Alors, Dans cette rencontre face à Rodez, il y a eu un choix, il y a eu plusieurs choix d'Olivier Dalloglio, mais le choix le plus marquant, c'est la rentrée de Batu Binsika, qui a des stats absolument énormes avec les Verts. Et quand, je vais dire de mémoire, j'ai peur de dire une bêtise, mais les chiffres, c'est à peu près ça. En gros, on prend 1,2 points avec lui lorsqu'il est sur le terrain, en moyenne, et puis, ou même plus que ça, peut-être. Puisque la victoire, c'est à 3 points. Mais, et puis 0,6
c'est
seulement.
C'est 1,2 buts. C'est des buts, en fait.
C'était ah, c'est des buts, buts.
Sans lui, 1,2 c'est 1,2. Buts. Et avec lui, c'est 0,6 ou un truc
0,6,
comme ça.
0,6, voilà. Et puis pour les ouais, stats voilà. de victoire, là, je ne les ai plus en tête, mais c'est un peu la même chose. Par hasard, est-ce que tu penses que c'est un peu le fruit du hasard ou véritablement la charnière Batu Binsika Nadé est supérieur à la charnière Briançon-Nadé. Je précise que ces derniers temps, j'ai trouvé Anthony Briançon très bon.
Moi, je pense que c'est le fruit du hasard, pour le coup, parce que, de mémoire, Batu Binsika s'est blessé en même temps que Larsonneur, à l'automne. Donc, il n'a pas pu connaître la période de creux assez abyssal de 5 matchs consécutifs perdus. Je ne suis pas sûr que ce soit parce qu'il n'était pas là. S'il y en a un des deux qui nous a peut-être plus manqué que l'autre, je dirais que c'est quand même plutôt Larsau. Et objectivement, quand il est revenu, je me souviens qu'à Amiens, il fait une boulette. Il glisse, on perd un but, on prend un but à cause de lui. Que le match suivant, il fait encore une boulette. Contre Bastia, il démarre mal son match. Alors on le gagne, mais il démarre mal son match. J'aime bien
c'est miraculeux qu'on ne prenne pas de but d'ailleurs, parce qu'effectivement, ouais. Là, il était très, très responsable, pour ne pas dire coupable.
Donc, j'aurais même tendance à penser que la charnière Briançon-Nadé est plus complémentaire que la charnière Briançon-Nadé, que la charnière Batu-Nadé, mais c'est compliqué de faire un choix entre les trois. En tout cas, moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'il est absolument nécessaire qu'il soit titu et qu'il n'y a pas débat là-dessus. N'oublions pas que ça faisait quand même 2-3 mois qu'il n'était plus titu et que ça coïncide quand même avec une très belle série des Verts. Bon, donc, il est revenu. Il se trouve qu'on a gagné contre Odez. Je pense du coup qu'il va enchaîner contre Metz, mais sans doute aussi parce qu'il a plus de garanties en termes de physique que Briançon, mais en tout cas, moi, je pense pas qu'il soit au-dessus de Briançon et que sa présence s'impose naturellement. Celui dont la présence s'impose naturellement dans les trois, pour ce qui me concerne, c'est Nadé.
Ah, tu fais le lien avec le sujet suivant, effectivement, Michael Nadé, la transformation de Michael Nadé. Avant qu'on évoque le cas de Michael Nadé, Pat et Dissident, voire Verivel, est-ce que vous êtes en désaccord avec ce qui vient d'être dit? Puisque moi, je suis d'accord avec Par Hasard. Est-ce que l'un d'entre vous pense que Batu Binsika Nadé ou que Batu Binsika, intrinsèquement, c'est sensiblement meilleur que Briançon?
Pour moi, j'ai quand même le sentiment que Batu, il offre quand même un peu plus de garantie que Briançon. Alors Briançon, ce qu'il a pour lui, c'est ça, on peut pas lui enlever, c'est sa rage de vaincre qui nous permet des fois de nous sortir de situations très compliquées défensivement. Il a fait des sauvetages, moi j'ai encore en tête les sauvetages limite vraiment ric-rac quand on était à 10 contre 11 contre Bordeaux. Voilà, par exemple, c'est typiquement le genre de situation où on va le voir. Par contre, moi, j'avais quand même l'impression sur les derniers matchs qu'il était cramé et qu'il était. Je trouvais incompréhensible de le faire démarrer aussi souvent et même pas sortir finalement, alors qu'on avait justement un Batu Binsika sur le banc qui était, lui, pour le coup, frais puisqu'il jouait pas. Alors, il manquait de rythme. Forcément, il jouait pas. Mais pour moi, il aurait été plus intéressant peut-être de les faire tourner, surtout sur certains matchs qu'on a pu avoir à jouer. Je pense qu'on n'aurait pas perdu au change en les faisant tourner plus souvent. Il se trouve que bon, le match contre Odez, il revient. Je pense qu'il était quand même réclamé à corps et à cri. Alors, je pense pas que Odo l'ait mis en écoutant la meute. Je pense qu'il a dû voir aussi que son capitaine commence à vraiment être fatigué. Mais pour le coup, il sort un bon match d'ensemble. Première mi-temps un peu difficile, mais la deuxième était quand même assez cohérente. La paire avec Nadé a bien fonctionné, puisqu'on a finalement assez peu vu les deux attaquants de Rodez, ce qui était une très bonne nouvelle aussi. Mais voilà, encore une fois, je ne suis pas non plus totalement rassuré encore. Moi, j'ai confiance en Batou et je pense qu'il peut faire beaucoup de bien, surtout face au vilain qui se pointe là-bas pour le match de jeudi.
Oui, malheureusement, on va être contraint de parler de ce triste personnage. Alors, avant de parler de ce triste personnage, on va continuer sur Michael Nadé. Moi, j'ai envie de parler de métamorphose dissident. Je dis honnêtement, hein, je n'y croyais absolument plus à Michael Nadé, qu'on a suivi depuis longtemps, hein. On l'a connu en jeune, on l'a connu faire des apparitions assez vite dans l'équipe première, remplaçant, parfois titu, participant au naufrage, en partie au moins au naufrage successif en Ligue 1. Pour moi, c'est une métamorphose, c'est devenu une sorte de Desailly du Forêt, gaucher. Est-ce que tu as la même analyse que moi sur l'élévation du niveau de Michael, d'une part, et puis sur le fait qu'il est devenu une valeur sûre?
Oui, alors ce qui est assez incroyable, c'est que là, on discute de notre charnière centrale, mais sur le papier, la charnière qui paraissait la plus évidente en termes de complémentarité, c'était Briançon-Batou-Insika. Briançon pour sa grinta, Batou-Insika pour son calme et son placement. Et en fait, comme l'a très bien dit par hasard, aujourd'hui, il n'y a absolument plus de débat. C'est que il y a d'abord Nadé, et après, on choisit le joueur pour l'accompagner, quoi. Moi, pour faire un bémol sur ton analyse, Osvaldo, j'ai quand même le souvenir que Nadé avait été un des moins mauvais, on va dire, la saison de la descente. Il avait, lui, en tout cas, il avait tenu son rôle. Il avait joué au niveau qu'on attendait, alors que toute l'équipe se désagrégeait autour de lui. Effectivement, la saison dernière, on l'a un petit peu perdu de vue et moi, je pensais pas qu'il pourrait revenir à ce niveau-là. Dalloglio l'a mis un peu contre vent et marée au début. Essentiellement, on pensait à cause de son statut de gaucher, ce qui équilibrait un peu la défense, facilitait les relances, etc. Et puis, on l'a vu prendre une dimension incroyable sur ces derniers mois. Au point que effectivement aujourd'hui il est titulaire indiscutable et qu'on ne peut plus débattre on débat seulement de qui va l'accompagner, quoi. Bah, vraiment vraiment épatant.
Oui, épatant, calme et puis ayant très vite gagné en confiance. Donc ça c'est vraiment à mettre au crédit d'Olivier Dalloglio, je pense. Alors, le bémol par hasard de cette rencontre face à Rodez, c'est à nouveau un manque de réalisme offensif. On a mis longtemps à marquer alors qu'on avait quasiment 20 tirs à la mi-temps. Je me souviens qu'à un moment, on en avait 17 et que la mi-temps n'était pas terminée. C'est un peu dans la lignée de QRM. C'est un peu inquiétant quand même qu'on se... C'est bien de se créer des occasions, mais il faudrait être capable, parce qu'au contre-messe, on va probablement s'en créer moins, il faudrait être capable d'être plus efficace.
Oui, malheureusement, je suis d'accord avec toi. Ça m'a beaucoup fait pester. Et quand même, je vous ai trouvé sympa en revenant, pour revenir deux secondes à QRM. Souvenez-vous de la première mi-temps, en fait, à QRM, à part l'occasion de Cardona qui finit sur le poteau, mais dans un angle très fermé, on a très peu d'occasions. Et contre Rodez, on était plus dans l'intensité, il y a eu plus d'occasions en première mi-temps, mais il y a quand même un gros problème de justesse devant. Alors, Dalloglio est sympa, il parle de réalisme, mais je pense que le jour où il sera parti de Saint-Té et qu'il sera un peu en aparté avec ses potes, il dira j'avais pas que des cadors devant, j'avais des mecs un peu avec des limites en dehors de Cardona. Mais je trouve qu'on a vraiment des soucis de justesse. Alors, il met ça sur le thème de l'agressivité offensive, mais j'ai bien peur, moi, que ce soit une question un peu de limite individuelle, technique des joueurs. Soit la dernière passe n'est pas parfaitement ajustée, pas dans le bon tempo, notamment tous ces centres qui trouvent pas preneur. Ces centres en retrait, on en a encore vu contre Rodez en première mi-temps. Je crois que c'est un centre de Chambaud. Pour le coup, c'est peut-être Sissoko qui est un peu court, mais soit c'est la frappe où on se dit, bon, il aurait quand même pu être plus précis. Il y a Cafaro en première qui a un ballon qui lui revient dessus, qui reprend de volée. On se dit, il doit pouvoir le cadrer quand même, c'est un attaquant, mais il la met au-dessus. Et pour moi, c'est un vrai motif d'inquiétude parce que quand même, c'est une limite un peu récurrente de notre saison. Si on met de côté l'éclaircie Cardona, finalement, ce manque de justesse devant, il a été un peu présent toute la saison parce que Cafaro a très peu marqué. Sissoko a beaucoup marqué, mais en dehors de quelques buts, il a marqué beaucoup de pénaltys. En dehors de quelques buts, un peu de raccroc ou de un ou deux jolis buts. Et voilà, c'est contre Metz, enfin tu l'as dit. Metz, c'est une équipe qui, par ailleurs, défend beaucoup, joue en contre et va sans doute pas se découvrir beaucoup. Donc, il faudra être clinique face à eux. Et ce n'est pas forcément gagné avec les attaquants qu'on a.
Non, être clinique, si c'est une condition nécessaire et suffisante pour passer, c'est un motif d'inquiétude, effectivement. Alors, tu fais à nouveau une magnifique liaison avec
Anticipation.
la, oui, avec la partie suivante, hein, le duel contre Metz. Alors, Metz, une équipe, là, on voit quand même une petite musique dans la presse. Tout est au beau fixe à Saint-Étienne, Metz. Même le Républicain Lorrain, là, ils expliquent que bon, bah, ils n'ont pas grand-chose à faire valoir, que toutes les stats sont contre eux. Enfin, voilà, moi, ça me déplaît assez parce que on nous présente un peu comme favoris. Alors, quelle est la dynamique de Metz? Alors, si on regarde sans creuser, Metz reste sur 4 défaites consécutives, dont 3 à domicile en championnat. Donc évidemment, on se dit, c'est une équipe au fond du trou. Quand on regarde dans le détail, quand on regarde sur les 5 derniers matchs, ils commencent par aller gagner au Havre, 1-0. Ils perdent chez eux contre Lille, 2-1. Lille, donc, ils perdent contre Rennes, 3-2. Donc ils perdent 2-1 et 3-2 contre Lille et Rennes. Ils vont perdre 2-1 à Strasbourg. Et ils perdent 2-0 contre Paris. Autrement dit, il n'y avait pas un match facile. Dans cette série-là, en dehors de celui au Havre, enfin, c'est pas que ça soit très facile, mais c'est le plus facile et il gagne. Autrement dit, et je vais te solliciter, mon cher Pat la dent dure. Autrement dit, est-ce que tu penses comme moi que cette idée que Saint-Étienne, mine de rien, serait peut-être même favori, est une erreur d'analyse?
Ah, je te rejoins totalement. Moi, cette équipe de Metz m'inquiète au plus haut point, déjà parce que même si elle a ses stats telles que tu les as décrites, mais également toutes celles qu'on nous rabâche, comme quoi c'est une équipe qui sait pas garder le ballon, qui a que 35% de moyenne de possession de balle, qui ne joue qu'en contre, qui joue à 10 derrière, enfin bref. Bref, pas une équipe de Ligue 1. Bah, ça reste une équipe de Ligue 1 malgré tout, qui a joué du coup des matchs avec beaucoup d'intensité, qui a joué moins de matchs aussi que nous, beaucoup moins de matchs que nous, qui va être très fraîche, qui a des joueurs qui se connaissent bien, qui ont déjà pour la plupart joué les 2 matchs de la saison dernière qu'on avait perdu contre eux. Non, enfin, clairement, on n'est pas favori sur cette double confrontation. On joue la Ligue 1. De la même manière qu'il y a 2 ans, nous étions favoris parce qu'on était la Ligue 1 contre la GIA. Donc il y
Et
aura toujours.
j'ajoute même qu'on était supérieur à Auxerre. Il a fallu que les joueurs, certains joueurs en tous les cas, ne soient loin de leur niveau pour qu'on ne passe pas.
Oui, tout à fait. Donc après, c'est peut-être ce qui se passera. Je doute fort que le Mico machin, truc bidule, vilain, là, lui, il sera à son niveau, malheureusement. Je ne pense pas qu'il soit en dedans. Par contre, ce qui peut jouer en notre faveur, ça reste quand même malgré tout l'enchaînement catastrophique que Metz, mine de rien, a vécu. Parce que là, tu parles que des 5 derniers matchs, mais j'ai vu une autre stat encore plus déprimante pour eux. Ils ont perdu 16 de leurs 21 derniers matchs, je crois. J'ai vu ça comme stat aujourd'hui. C'est, enfin, pour le moral, on fait mieux comme préparation avant de jouer un barrage décisif pour rester en Ligue. C'est peut-être là-dessus où si on leur rentre dedans et qu'on arrive à marquer assez vite, ce qui sera très très loin d'être aisé, vu tous les mots que par hasard a rappelés dans son intervention précédente, et que je partage complètement, ce ne sera pas simple. Bah, malgré tout, si on y arrive, il y a moyen qu'on puisse les perturber, surtout au match aller, où on va avoir le stade plein, qui va pousser très très fort. Donc, ça va clairement se jouer là. Mais non, on n'est pas favori, ce sera au mieux très serré. Je ne m'attends pas, moi, à nous voir jouer et gagner facilement les deux matchs et tout, même si j'en rêverai, bien sûr. Ce sera très stressant, très stressé, et je pense que ça se jouera pratiquement jusqu'à la dernière minute du match retour.
Alors, si on leur rentre dedans avec le stade en feu, dissident, est-ce que, en termes de stratégie, de tactique, est-ce que il faut se laisser porter par le public au risque de se faire contrer par une équipe qui aime ce type de jeu ? Ou est-ce qu'il faut, à l'italienne, à l'époque où le but à l'extérieur comptait double en cas d'égalité, ou est-ce qu'il faut se contenter d'un 0-0 à la maison et puis d'aller faire un petit 1-1 à l'extérieur ? Bah, pour moi, ça, c'est une vraie, vraie grosse question pour Olivier Dalloguillo. J'aimerais avoir ton avis sur la question.
Ouais, c'est une bonne question. Après, moi, je rajouterais comme un ingrédient qui doit tourner quand même dans la tête des Messins depuis un petit moment, c'est quand même qu'ils sont passés à deux doigts d'un cataclysme complet, parce que je pense que ça faisait plusieurs semaines qu'ils espéraient encore sur une victoire arriver à se sauver, à garder leur place sans passer par les barrages. Ils ont, notamment après leur victoire au Havre que tu rappelais, ils ont fini sur quatre défaites de suite, et surtout le dernier match où ils perdent contre Paris 2-0 alors que Lorient était en train d'étrier Clermont, et à un but près, ils ont failli tomber dans la charrette. Donc je pense qu'au niveau psychologique…
Dissident.
Ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est un but près, mais c'est un truc hallucinant. Je ne sais pas si tout le monde a suivi. Pendant très longtemps, en cas d'égalité au goal average, ce qui était le cas pour Lorient et Metz, même nombre de points, même goal average, c'était le nombre de buts marqués qui départageait les équipes. En l'occurrence, Lorient a marqué plus de buts que Metz. Mais la règle a changé. Et maintenant, c'est au goal average particulier, c'est-à-dire les deux rencontres entre Lorient et Metz. Metz a gagné 3-2 à Lorient, Lorient a gagné 2-1 à Metz. Donc, égalité sur le goal average particulier. Et alors que la règle du but à l'extérieur qui compte double en cas d'égalité n'existe plus nulle part, et elle existe pour départager les équipes dans le championnat. Et donc, c'est grâce à un nombre de buts supérieur marqué à Lorient, en l'occurrence 3 contre 2 pour Lorient à Metz, que Metz termine devant Lorient et ne file pas directement en Ligue 2. C'est hallucinant. Si j'avais été supporter lorientais, j'aurais été fou. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais tu m'as remis ça en tête. J'en revenais pas quand j'ai suivi ça.
Non, mais tu fais très bien de le rappeler. Et c'est vrai que le scénario de la dernière journée, là, ça a été absolument incroyable. Et du coup, je ne sais pas vraiment dans quel état d'esprit seront les Messins, mais à mon avis, ils ne sont pas, psychologiquement en tout cas, ils sont pas au top, à mon avis. Et souvent, on dit que l'avantage, c'est d'avoir le match retour à domicile. Mais je pense que pour le coup, d'avoir le match aller chez nous, c'est plutôt un avantage si on arrive effectivement à les faire douter. Et souvenez-vous le parallèle qu'on pourrait faire il y a deux ans avec notre barrage contre Auxerre. Au match aller à Auxerre, dans mon souvenir, on avait été bien meilleurs qu'eux. On aurait dû gagner ce match aller.
Pendant une heure, on les domine largement, on doit mener 3-0, et puis après on s'arrête de ouais. jouer, ça leur permet de revenir à un…
C'est ça. Et pour moi, ça a été… évidemment, il y a eu tout le scénario du match retour, mais pour moi, ce match nul qu'on fait bêtement à Auxerre, ça a changé un peu la face de ce barrage, et ça a redonné la confiance à Auxerre pour venir chez nous. Ça nous a mis un coup sur la tête, quoi. Donc je pense que ce match aller à Geoffroy Guichard va être capital si on arrive à mettre les ingrédients qu'il faut pour faire douter les Messins et leur rentrer un petit peu dedans. Donc, pour répondre à ta question de début, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de jouer la prudence, parce que plus on va être prudent et plus on va remettre un peu, entre guillemets, cette équipe de Metz en confiance.
Voilà, intéressant ce que tu dis, dissident. Effectivement, jouer sur l'aspect peut-être psychologique de médecins blessés qui sont probablement en perte de confiance et donc appuyer très fort sur l'accélérateur. Mais je le répète, au risque de se faire contrer, ils ont des joueurs qui vont vite. Alors, ils ont un jeune, là, j'ai oublié son nom, là, qui marche fort en ce moment, qui n'est pas titulaire depuis très longtemps, mais qui marche fort en ce moment sur le côté. Diallo. Et puis, pardon ?
Je crois que c'est Diallo.
Oui, c'est fort possible, effectivement. Et puis, par hasard, bah, c'est toi qui vas t'y coller. Hein. Je suis désolé, les autres diront peut-être un mot dessus. On a en face un joueur qui est probablement... qu'à un niveau supérieur à celui de cette rencontre, au niveau moyen de cette rencontre, c'est Miko Tadze qu'on a subi déjà l'année dernière. Alors, dans le conducteur de l'émission, j'ai titré Miko Tadze arme fatale, point d'interrogation. Après un échec à l'Ajax, puisqu'il a été transféré à l'Ajax au Mercato, il est revenu au Mercato d'hiver à Metz, 11 buts en 17 matchs. Est-ce que, selon toi, on a les moyens d'arrêter celui qui a fait l'année dernière la démonstration qu'il était aussi bête que Jimmy Briand ?
Ouais, aussi con que Briand, on est d'accord. Et la question qui se posait et qu'on s'est posée avant de démarrer l'émission, c'est est-ce qu'il est aussi brillant que con ? Balle au pied, peut-être.
Il faut espérer que non.
Ensuite, c'est pas Messi. Et si on prépare le match, et j'en doute pas, intelligemment, je suis pas sûr que face à une défense vigilante, sérieuse, qu'il prend bien, donc qui est capable éventuellement peut-être de couper l'alimentation vers lui et d'être presque à deux sur lui. Je suis pas sûr que c'est pas une fatalité qui brille. Donc, on a vu, c'est un très bon attaquant. Bon, Cardona aussi est un bon attaquant. Pour moi, c'est pas une fatalité qui nous mette dans le vent et qui nous en claque deux. C'est une possibilité, mais c'est pas une fatalité. Et voilà, faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire qu'avant Metz, personne connaissait ce joueur, ou je crois qu'il a fait un séjour en Belgique qui s'était pas trop mal passé, mais pas à ce point.
Il avait été très très bon à Seraing. L'année de la montée, il avait été très bon. Il est revenu l'année de la montée de Seraing. Ensuite, il est revenu à Metz et Antonetti ne souhaitait pas le conserver. Il est reparti à Seraing et en D1 belge, il a à nouveau été très bon avec de très bonnes stats.
Il n'est pas vraiment titulaire indiscutable avec la Géorgie. Donc, c'est vrai qu'on le voit arriver comme un monstre parce que je crois que sur les 10 derniers buts de Metz, il a dû en mettre 8. Bon, il y a quelques pénalties là-dedans. J'espère et je pense qu'on va préparer un plan pour le surveiller de près. Mais voilà, ce n'est pas forcément l'arme fatale. Non, moi, je ne dirais pas ça. Je pense que Dissident a raison sur un point, c'est qu'ils arrivent pas en confiance. Contrairement à toi, je trouve quand même que leur série de 4 défaites, elle est quand même un peu révélatrice. De leur incapacité à aller contre ce destin négatif, parce qu'à Strasbourg, ils mènent. Strasbourg n'avait plus rien à jouer, était en vacances avec des joueurs qui étaient sur le départ, et Strasbourg finit par leur passer devant. Je pense que même ce match était peut-être plus difficile pour eux, enfin plus facile, pardon, pour eux que le match au Havre, parce que le Havre jouait encore la descente. Et contre Paris, ils jouent contre un Paris démobilisé. Et on a vu que Paris démobilisé, ça peut faire des matchs nuls. Il me semble qu'ils ont fait match nul contre Clermont. Il me semble qu'ils ont fait match nul contre Reims. Et Metz s'est fait bouffer contre Paris. Donc, ils n'ont pas quand même démontré dans ce sprint final des qualités mentales à toute épreuve. Et ça peut quand même être un motif d'espoir. Ils arrivent escortés de probablement un peu de doute et même, je dirais, plombé par le doute plutôt qu'escorté, alourdi. Et il faut qu'on joue là-dessus. Ensuite, est-ce qu'il faut qu'on emballe le match à GG? Ça, c'est une autre vraie question. Parce que, effectivement, finalement, dans leur perf et dans ce qui leur a permis de gagner quelques points, il y a beaucoup de matchs à l'extérieur. Je me souviens qu'ils ont gagné à Lens, ils ont fait match nul chez les Vilains. À domicile, ils se sont pris souvent des cartons. Ils en ont pris 5, je crois, contre Monaco. Ils en ont pris 4 contre Rennes. Donc,
ouais, 5-2, ils ont perdu 5-2 contre Monaco, mais ils ont perdu, entre guillemets, que 3-2 contre Rennes.
4-3, non? Il me semblait que c'était 4-3, mais bon.
Non, 3-2.
3-2. Voilà, le truc, c'est que je suis pas loin, moi, de penser, en fait, qu'un nul serait pas forcément une mauvaise opération à l'issue de l'aller. Parce que là-bas, si eux doivent s'engager, doivent prendre des risques, ça peut être intéressant pour nous. Donc surtout ne pas hypothéquer nos chances avant le retour. C'est ça pour moi la priorité numéro un.
Oui, c'est souvent le cas dans les matchs aller-retour, hein, ne pas hypothéquer ses chances. Alors il faut savoir doser, parce que entre ne pas hypothéquer ses chances et faire un non-match, ben, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Alors, Pat, pour rester dans le même thème, compte tenu de l'engouement exceptionnel, alors on a l'habitude, mais ça reste exceptionnel pour de la Ligue 2, et même ça reste exceptionnel pour Saint-Étienne quelque part. 7e match de suite à domicile à guichet fermé, c'est historique dans l'histoire du club, c'est la première fois que ça arrive. Est-ce qu'en fait, les joueurs vont avoir le choix? Parce que si Olivier Dalloglio fait le choix d'être prudent, se disant que 1-0-0 est un bon résultat. Alors évidemment, on ne va pas s'empêcher de marquer un but, mais avant tout, ne pas en prendre. Est-ce que c'est possible de jouer cette stratégie-là avec le stade qui va très probablement être en fusion?
Ça, c'est aussi une très bonne question. Honnêtement, ça va dépendre aussi beaucoup de ce que proposera l'adversaire en face et du sentiment qu'il nous laissera au fil de la partie. Je peux effectivement, on a perdu nous l'habitude de jouer ce genre de match à enjeu, surtout sur des phases aller-retour. Donc je suis pas certain que le public ait la culture de se dire bon, comme le disait par hasard, préservons nos chances, ne les gâchons pas surtout, et allons à Metz avec au mieux un nul. Ce serait pas non plus une mauvaise opération, puisqu'ils savent pas faire le jeu chez eux. Mais ces considérations-là, je suis pas certain que dans le feu de l'action, le public les entende. Si on regarde que, enfin, peut-être, je pense qu'il faut, il faudra sûrement voir le match en deux parties. Je pense malgré tout que la première mi-temps, on aura quand même une équipe qui va quand même essayer de rentrer dans Metz pour aller leur en mettre. Par contre, si on se rend compte que le mur est difficile à franchir, qu'on se prend des contres assassins derrière et que ça tient malgré tout, bah peut-être qu'on se dira oh là, il faut peut-être serrer et ne pas trop s'exposer pour ne pas gâcher nos chances. Mais je pense quand même malgré tout qu'il y aura une. Enfin, ce sera dans un deuxième temps. Je pense qu'on va d'abord quand même tenter. Qu'on va quand même tenter d'aller les bousculer. On va tenter d'aller leur marquer un pion. Si vraiment après c'est complexe et qu'on se rend compte qu'en plus on physiquement on commence à piocher en deuxième mi-temps, il sera peut-être le public l'entendra peut-être mieux s'il se rend compte qu'on a des difficultés à résister à cette équipe. Je vois pas d'autres possibilités. Si on commence dès le début de match à calculer et à ne pas y aller, je pense que ça va se retourner contre nous, parce qu'en plus c'est pas quelque chose qu'on sait très bien faire. Pour moi, je pense qu'il y aura ces deux temps dans le match.
Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je sais pas s'il y en a les qualités pour gérer face à cette équipe de Metz, dont j'ai du mal à évaluer le vrai niveau par ailleurs, hein, je ne vais pas mentir, je ne me suis pas farci les 38 matchs de Metz, pour, d'ailleurs ce n'est pas 38, c'est 34, pour me faire une idée. Mais A priori, c'est pas notre. Enfin, je pense qu'on a probablement plus d'arguments dans un match emballé, porté par le public. Alors voilà, il faudra doser, il faudra quand même avoir un petit peu de sécurité pour ne pas se faire cueillir comme on avait été cueilli l'année dernière, hein, contre Metz, alors qu'on restait, on était sur une période, je ne sais plus combien de matchs sans défaite on avait, mais on était vraiment dans une phase très très positive, et puis on avait vécu un coup d'arrêt très violent. Alors,
par rapport à ça, ce qu'on peut ajouter, c'est que Daloglio ne nous a pas habitués à faire des aménagements tactiques d'un match sur l'autre, ni faire des aménagements tactiques et des changements, ni faire ni bouleverser son groupe ou son 11 de départ. Donc, je pense pas qu'on se retrouve jeudi soir avec une tactique fondamentalement différente de celle qu'on a utilisée jusqu'à présent depuis décembre dernier.
On verra. C'est un match particulier. Il peut aussi avoir envie de surprendre, même si je pense que c'est ce que tu dis est le plus probable.
Qui va jouer, en revanche, c'est la proximité du deuxième match. Ça va jouer, à mon avis, tant dans notre approche tactique, au sens où peut-être que, comme l'a dit Pat, si on est à 0-0 à l'heure de jeu, on va peut-être préférer ne pas prendre le risque d'hypothéquer notre deuxième partie, plutôt que de prendre, enfin, en prenant le risque en espérant marquer un but. Et puis il va y avoir la notion de physique qui va être importante, parce que je pense qu'on a un certain nombre de joueurs sur lesquels on n'a pas de certitude quant à leur capacité d'enchaîner deux matchs en 4 jours. Et donc ça va sans doute aussi, ça pourrait même jouer sur le 11 de départ du premier ou du deuxième match.
Oui, c'est même en 3 jours, hein, puisque il y a 3 jours entre le début des deux rencontres. Donc c'est vrai que ça, c'est une véritable interrogation. Et on a vu, je pense qu'on est tous d'accord sur la question, que c'était très pénalisant pour Rodez. Certainement qu'une équipe de Rodez moins fatiguée, on l'aurait moins dominée. Alors peut-être qu'on serait qualifié quand même. On semblait supérieur, mais ça aurait été probablement une domination moins écrasante que celle qu'on a affiché vendredi dernier. Alors, avant de passer à la dernière partie de l'émission et d'évoquer la vente du club, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu sur la compo, qu'on voit si on peut se mettre d'accord sur une composition pour jeudi. La première incertitude, c'est Gauthier Larssoneur. Alors, bon, on n'a pas de nouvelles de sa blessure, donc on va faire vite pour le coup, hein. Gauthier Larssoneur titulaire, s'il est apte, en tous les cas, il n'y a pas photo. La première vraie question, à mon avis, Dissident, tu vas nous dire ce que tu en penses, elle se pose entre Denis Sapia et Ivan Masson, côté droit. Où va ta préférence?
Eh ben écoute, moi je vais te répondre que j'aimerais bien voir les deux ensemble, en fait. Parce que pour moi, la meilleure période qu'on a vécue au printemps, là, dans la saison, c'était quand on avait Appia à droite et Masson à gauche. Une belle série qui s'est arrêtée quand Appia s'est blessé. Mais je trouvais que Masson très intéressant à gauche, d'une part avec son entente avec Cafaro, et d'autre part sur sa faculté à revenir sur son pied droit pour frapper de loin. Donc sur ce match-là, moi j'aimerais bien voir Appia à droite et Masson à gauche.
Très intéressant, tu n'es pas le seul à penser ça. Pat, tu peux nous dire rapidement si tu privilégies cette organisation, Appia à droite, Masson à gauche?
Alors, je vais faire très vite. Je suis en phase avec ce que vient de dire Dissident, mais je ne suis pas certain qu'Odo soit dans la même lignée. Je pense qu'il remettra Petro à gauche. Reste à savoir s'il mettra Masson ou Appia, ça va dépendre des états de forme.
On est là pour faire la compo dont refait le mastre, on n'est pas là pour faire la compo dont... Donc vous êtes d'accord, par hasard?
Moi je laisse Petro à gauche parce que je trouve que c'est celui qui apporte le plus de garanties défensives, et je laisserai Masson à droite parce que j'ai trouvé qu'il avait été très bon contre Odez, y compris et surtout parce que défensivement, on n'a pas été trop embêté, mais surtout par sa capacité à être dangereux et à porter le danger. Donc, je pense que chez nous, c'est pas mal d'avoir Masson pour mettre une ou deux frappes dont il a le secret. Donc, Masson-Petrou.
Ouais, je suis sur la même longueur d'onde suite au match à Rodez, parce qu'autrement j'aurais préféré Denis Sapia, puisque Ivan Masson m'énerve dans plein de circonstances malgré ses qualités, parce que je trouve que parfois il prend des décisions idiotes, il fait des fautes idiotes, et ça n'a pas été le cas pour contre Rodez, sauf une fois où il a fait une faute tout à fait évitable. Mais j'ai envie de lui renouveler la confiance. Du coup, il y a 2-2. Verivel, c'est toi qui va, pour la compo dont refait le mastre, qui va trancher entre ces deux organisations.
Ouais, alors moi, comme j'en veux beaucoup à Ivan Masson là, pour le penalty à Guingamp, donc je ne l'aurais pas mis, mais en fait, je pense que quand même, la meilleure organisation, ce serait d'avoir Masson plus Appia. Je suis plutôt dissidentesque sur ce coup-là.
Non, pas du tout. Oui, dissidentesque, tout à fait, pas
Oui,
par
c'est ça.
hasardesque, tout à
Oui,
fait,
voilà.
absolument. Ok, donc bah, on a perdu par hasard, hein, c'est le jeu de la démocratie. La charnière centrale, maintenant, tiens, c'est moi qui vais commencer pour changer un petit peu. Moi, je mets Batoubine Sika Nadé, dissident.
Pareil.
Pat.
Idem, la même.
Par hasard, tu vas nous dire ce que tu en penses, même si ça ne sert plus à rien.
Moi, je mets Briançon Nadé.
Ah, faut toujours qu'il fasse l'original, lui, hein, pour se faire remarquer. Briançon Nadé, Verivel.
Batou Nadé, ouais, aussi.
D'accord. Bon, bah, Batou Nadé, assez majoritaire. Moi, pourquoi j'ai choisi Batoubine Sika plutôt que Briançon, que j'aime beaucoup, c'est parce que je pense que les qualités athlétiques de Batoubine Sika sont peut-être plus à même de pouvoir juguler les offensives de celui qui n'est, espérons-le, pas aussi brillant que con.
C'est surtout, je pense surtout qu'à la maison, il y aura peut-être plus besoin de ces qualités-là, puisque le contre-messin est beaucoup plus probable chez nous que chez eux. Je pense que les qualités de Briançon seront plus exprimables, entre guillemets, là-bas, où peut-être qu'on subira peut-être un peu plus.
Ouais, c'est tout à fait possible, on verra ça. Alors, le milieu de terrain, maintenant, on va partir sur l'organisation classique en 4-3-3. Hein. On commence avec qui c'est qui n'a pas encore commencé? Dissident, je crois, t'as pas encore commencé? Ah non, si,
Oui.
c'est toi qui as commencé tout à l'heure, c'est Pat. Pat, quels sont les trois du milieu que tu mets?
Les trois du milieu, moi je mets mon conduit en point de basse. Je mets évidemment Mouefec dans son rôle de box-to-box et Chambaud de l'autre côté en organisateur de jeu. Je pense que là on va pas changer grand-chose. Moi je préfère mon conduit à Tardieu perso, même si Tardieu j'ai l'impression qu'il est en train de revenir au bon moment. Pour moi, il est quand même encore en tout dans l'impact et dans l'engagement. Et je pense qu'en termes de vitesse, ce sera peut-être plus utile de l'avoir à domicile et peut-être plus tardieux au match retour.
Alors moi, je suis exactement sur la même ligne que toi, même analyse pour Tardieu qui revient bien, qui peut rentrer en cours de match et nous faire beaucoup de bien. Et je mets les trois mêmes. Dissident, à toi.
Oui, je mets les trois mêmes et je pense que mon conduit sera relayé par Tardieu parce qu'il revient de blessure et que Tardieu revient bien, comme vous l'avez signalé. Donc, mon conduit, Mouefec Chambaud pour commencer et Tardieu à l'heure de jeu.
Et j'en profite pour tirer mon chapeau à Dylan Chambaud, qui a eu des moments difficiles, qui a été extrêmement critiqué et qui fait de belles choses ces derniers temps. Son centre pour la tête de Cardona est une pure merveille. Par hasard.
Ben, je vais encore être minoritaire, mais moi je laisse Tardieu pour le récompenser de son match et puis parce que j'ai encore en travers de la gorge les trois ballons perdus par mon conduit dans les 5 premières minutes de la seconde période contre Rodez il y a 15 jours. Mon conduit me fait peur de temps en temps sur les ballons perdus. Offensivement, évidemment, il apporte plus, mais je trouve que Tardieu a un sens du placement, une intelligence de jeu qui est supérieure à celle de tous nos autres milieux. Donc je le préfère en point de basse, je préfère Tardieu à mon conduit.
Argument tout à fait recevable, on comprend, et tu nous avais déjà dit que tu aimais bien un peu le calme et sa capacité à distribuer. Verivel.
Oui, moi je suis plutôt Pazaresque du coup sur ce coup-là, avec à l'inverse donc une entrée de mon conduit en cours de jeu plutôt que de démarrer avec lui vu que en plus il est à mon avis il est short, hein. Donc tardieux.
Oui, eh ben ça se défend, vos arguments. Vous perdez 3-2 de justesse. Moi, je dois dire que les deux choix, en fonction de la forme à l'entraînement des joueurs, les deux compositions me plairaient. C'est-à-dire, je ne serais pas inquiet si Tardieu commençait à la place de mon conduit, même si mon conduit, je l'apprécie beaucoup. Par hasard, on commence avec toi pour les 3-2 devant.
Bon, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de débats sur les trois de devant, mais Cardo, Cafaro, Sissoko, même si je trouve que Mboukou n'est pas beaucoup moins décevant, ou pas beaucoup plus décevant, pardon, que Cafaro depuis quelque temps. Mais Cafaro semble un petit peu revenir quand même sur les deux derniers matchs. Donc je laisse Cafaro, je ne change pas une équipe qui se remet à gagner. Cafaro, Cardona, Sissoko.
Oui, et puis Mathieu Cafaro a fait des belles différences, là, comme tu dis, là, je le sentais pas mal, bien en canne. Il est un peu irrégulier, mais il semble être dans une bonne phase. Verivel, les trois de devant.
Oui, pareil, avec une entrée en jeu de Mboukou au bout d'un moment. Faut pas, je pense qu'il faudra. Enfin, on sait que les matchs sont rapprochés, donc le banc aura une importance capitale sur ces deux matchs. Donc, une entrée de Mboukou à peut-être un tout petit peu avant la 60e, ça pourrait nous aider à faire du mal aux Messins. Mais pareil.
Et ne pas oublier que Ben Taïg peut tout à fait rentrer couloir gauche
Ouais.
offensif. Et que s'il faut bétonner un peu, Denis Appiah peut tout à fait rentrer couloir droit offensif. On a quelques possibilités quand même. Appiah ou Masson, si Masson n'est pas titulaire. Dissident, les trois de devant.
Oui, ben pareil, Cardona, Cafaro, Sissoko, avec des changements rapides, parce que effectivement, on joue deux matchs en 3 jours, donc le coaching aura son importance. Il ne faudra pas attendre les 10 dernières minutes pour faire des changements.
Ouais, c'est vrai que cramer nos trois offensifs en les faisant jouer 90 minutes, c'est peut-être pas l'idée du siècle, mais enfin bon, le match décidera aussi hein, la vérité du match, on la connaît pas à l'avance. Et pour terminer, Pat, les trois de devant.
Pas très original, hein. Je vais avoir les trois mêmes. Pareil, des relais, des changements rapides, mais même si là, pour le coup, je suis beaucoup plus inquiet, parce que c'est là qu'on se rend compte que devant, ben, on n'a personne d'autre, quoi. Et c'est ça qui va être compliqué à gérer, je pense.
À mon avis, quand vous dites des changements rapides, vous êtes un peu trop inquiet parce que un changement à la 70e, ça fait économiser quasiment 25 minutes avec le temps additionnel et ce sont 25 minutes qui comptent trois fois plus que les 25 premières minutes. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de faire des changements à l'heure de jeu. Je pense qu'on peut attendre un peu plus. Alors, le bilan avant d'attaquer rapidement la dernière partie. La compo dont refait le mastre, Larsonneur dans les buts, latéral droit Denis Appiah, latéral gauche Ivan Masson, la charnière centrale Batoubine Sika, Michael Nadé, le milieu de terrain Thomas Bonconduit, Aymen Mouefek. J'adore les photos d'Aymen à chaque fois qu'elle ressort. Aymen a 7 ans à l'école de foot de l'ASS. C'est extraordinaire de le voir maintenant en équipe première. Je trouve ça génial. Dylan Chambaud, lui aussi formé au club. Et puis les trois de devant, Mathieu Cafaro à gauche, Irvine Cardona à droite et Ibrahim Sissoko devant. Bon, bah, c'est pas
Avec
mal.
quand même le. Oui, il y a quand même l'incertitude autour de Larsonneur là, sur le chat qui vous écoutait religieusement là, depuis le début. Ça s'est un petit peu excité là, avec nos compos. Il y a Guillaume qui nous dit que en fait, il y a un paramètre important pour ces barrages, c'est comment Larsonneur se sent, quoi. Avec sa patte, est-ce qu'elle est opérationnelle ou pas? Donc voilà, et puis il y a Forésien là qui, à propos de Masson, nous dit qu'il n'a plus 90 minutes à haute intensité. Donc pour lui, le seul remplaçant à droite, c'est Appiah. Voilà, donc, mais autrement, ils sont à peu près d'accord avec nous.
Ouais, alors c'est vrai que bon, j'ai pas voulu trop m'attarder sur le cas de Gauthier Larsonneur parce que pour tout dire, ça me stresse. Et bon, on verra, on verra. De toute façon, on n'y peut rien, c'est pas un truc qu'on peut maîtriser, donc je préfère me dire qu'il sera apte, même si honnêtement, au fond de moi, j'ai de gros doutes. Alors, on va faire rapide sur la dernière partie, non pas qu'elle soit pas intéressante, mais on approche de l'heure d'émission. La vente du club, ça semble bien parti cette fois. La vente du club, par hasard, c'est un peu l'arlésienne. Et là, un, ça semble bien parti. Et deux, il semblerait que ça soit un duo, Larry Tannenbaum, Ivan Gazidis, qui offre des garanties. Honnêtement, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait une perspective de cette qualité-là. Alors, je ne dis pas que c'est extraordinaire. Mais c'est, semble-t-il, nettement mieux que ce que j'espérais.
Ouais, bah, je pense qu'on sera assez unanime là-dessus. C'est assez, c'est presque effectivement une surprise heureuse, tu l'as dit. Moi, ma surprise jusqu'à présent, c'était cette impression diffuse que personne ne s'intéressait, enfin qu'on n'arrivait pas à conclure la vente parce que, soi-disant, personne n'allait jusqu'au bout de la démarche d'achat. J'avais du mal à y croire compte tenu du potentiel de ce club. Autant j'avais du mal à croire qu'on n'ait pas de vraie proposition, autant j'avoue que le profil des acquéreurs, tel qu'il nous est décrit dans la presse, paraît assez idéal parce qu'à la fois, elles ont l'enveloppe financière qui peut nous laisser penser qu'il y aurait une ambition digne de ce nom. Ils ont une expérience forte à la fois dans le monde du sport pour l'actionnaire et dans le foot européen pour celui qui serait, je parle au conditionnel, mais obligé, qui serait le président. Donc une grosse expérience du monde du sport et du foot. Et puis, ce qui vraiment ne gâcherait rien, si ça se confirme, il semblerait qu'il soit là pas pour faire de la multipropriété et pas pour faire mais ensuite ça c'est forcément c'est normal qu'ils disent ça, mais pas pour faire un investissement court terme et revendre dans 3 ans et se faire une plus-value. Il semblerait qu'ils soient un peu là pour investir dans la durée, si on en juge par en tout cas ce qu'ils ont fait à Toronto. Bon, maintenant Toronto c'est le lieu de naissance de Tannenbaum, donc ça peut expliquer le fait qu'il n'ait pas envie de se séparer des différents clubs. Saint-Étienne, ce n'est pas son lieu de naissance. Donc, bon, à voir. Tout ça reste à confirmer avec d'une part avec l'officialisation, parce qu'on est tous tellement échaudés que forcément on craint l'eau froide. Donc, ça reste à confirmer avec l'officialisation et on a envie d'en savoir plus sur le projet, sur la nature du projet, qui garde, qui ne garde pas dans l'organigramme du club, quel montant ils investissent. Et puis, évidemment, quand même, on a toujours dans notre tête et dans nos tripes, est-ce que ce sera en Ligue 1 ou en Ligue 2? C'est quand même la question qui nous obsède le plus aujourd'hui. Et donc, il est difficile de se projeter au-delà de dimanche, quand même.
Ouais, alors, Ligue 1 ou Ligue 2, dissident, cette perspective d'achat, et par hasard l'a dit, il semblerait qu'il y ait une enveloppe financière qui permette de nourrir quelques ambitions. C'est quand même quelque chose de très nouveau. Et quelque part, moi, je trouve que ça donne un enjeu supplémentaire pour la double confrontation face à Metz, parce que on en a parlé avant l'émission, et même là, j'aurais voulu en parler à l'émission précédente, on n'a pas eu le temps, mais monter, pourquoi faire? Si c'est pour être content de finir 12e, est-ce que c'est tellement excitant? Là, peut-être qu'on va pouvoir nourrir des ambitions et revivre des moments forts en Ligue 1 si cette vente va au bout. En tous les cas, peut-être qu'on va se laisser une chance de vivre ces moments-là.
Oui, c'est ça. Et en fait, pour mon cas personnel, je dirais que cette annonce, pour moi, elle est tellement extraordinaire que ça m'enlève un petit peu le stress habituel du match. Aujourd'hui, on est à 48 heures du match. Je suis beaucoup plus serein que je devrais l'être. Alors, je suis persuadé que la pression va monter là maintenant dans les 48, 24 dernières heures. Mais je suis tellement je suis tellement intéressé par tout ce qui est présenté des futurs, on espère, des futurs repreneurs de Saint-Étienne. Regarde, vous avez lu tous les articles dithyrambiques qu'il y a à droite, à gauche. sur ce personnage, Gazidis qui passe par Arsenal, par Milan et qui à chaque fois repart avec, avec une image très positive. On a tellement été traumatisés ces dernières années de voir notre club se désagréger sous nos yeux sans qu'on puisse rien faire, qu'on subir cette descente aux enfers interminable qui nous a vu passer de l'Europe au fond de la Ligue 2 en quelques années, que là, il y a une sorte de sursaut un peu merveilleux. Et effectivement, ce serait mieux qu'on soit en Ligue 1 dimanche soir parce que le projet aurait d'autant plus de poids et d'importance pour se dire qu'en Ligue 1, on y va pour faire quelque chose. Mais voilà, si tu veux, le fond de ma pensée actuellement, là, le mardi soir, avant la double confrontation, c'est que je me dis que cette vente, si elle se fait, ce sera une très bonne nouvelle pour l'AS Saint-Étienne, qu'on soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. Mais bien sûr, je préférerais qu'on soit en Ligue 1.
Oui, alors en tous les cas, des informations dont on dispose, il me semble que le bilan que tu viens de tirer est incontestable. Alors, tu as parlé de l'action de Gazidis à Milan. Moi, j'ai lu qu'il y avait un déficit systémique énorme à Milan qui mettait le club en danger. Bon, rapidement, il a ramené le club à l'équilibre en développant le côté merchandising d'une manière considérable en particulier. Et puis, Pat, il y a autre chose. Alors, je ne sais pas quelle valeur il faut donner à ça, mais Gazidis a été encensé par Parolas, qui a dit que c'était un mec qui était reconnu par tout le monde, qui était exceptionnel dans ses compétences et en fait, il ne comprenait pas pourquoi il allait à Saint-Étienne parce qu'il méritait beaucoup mieux que ça. Alors, Pat, tu vas nous dire ce que tu penses de ça. Mais avant ça, il y avait Rivel qui veut intervenir. Et comme c'est lui le chef de la technique, si on ne lui donne pas la parole, il apprend. Alors, je préfère lui donner.
Non, mais pas du tout. J'avais le temps d'intervenir. Pas de souci. C'était juste pour rappeler déjà que dans ces prochains jours, nous allons sur Poteau Carré, il y a un article qui va sortir sur un portrait des deux personnes là qui sont susceptibles de reprendre le club, donc Tannenbaum, Gazidis, avec surtout un focus sur Gazidis. Ensuite, il y a sur le chat. Forésien 73 là, qui nous écoute, merci à lui hein, d'ailleurs, qui nous écoute à chaque fois et qui nous dit que connaissant notre duo, effectivement c'est une bonne surprise hein, ces deux-là, et il se demande si à qui on la doit, aux deux, ou bien est-ce qu'il y en a un qui a forcé l'autre, ben, je ne sais pas. En tous les cas, ce qu'on peut peut-être éventuellement avoir comme réflexion, et moi c'était la réflexion que je me faisais ces derniers jours depuis qu'on connaît un petit peu le profil des potentiels acheteurs, c'est de se demander si en fait finalement eh bien, ils n'ont pas bien fait de ne pas vendre avant, quoi. C'est-à-dire que leur hypothèse là, qui nous serinait à chaque fois, c'est-à-dire de dire on ne vend pas parce qu'on veut trouver le bon investisseur pour acheter et on ne veut pas vendre à n'importe qui finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait pas se dire que ben, c'était peut-être pas totalement des conneries? Voilà, je vous laisse avec ça. Moi, je pense que peut-être on peut leur accorder ce crédit-là.
Alors, moi, je me suis posé la question aussi, mais il y a quand même eu beaucoup de témoignages qui allaient dans le même sens et qui disaient qu'ils mettaient des bâtons dans les roues à tous les repreneurs potentiels. Bon, de toute façon, on aura du mal à connaître le fin mot de l'histoire. Pour terminer l'émission, Pat, donc j'avais demandé ton avis sur le fait que Gazidis avait réussi partout et qu'il avait été adoubé par Palpatine.
Je ne sais pas si il faut en tirer quelque chose de cet adoubement, mais dans tous les cas, bon, s'il est sincère dans ce qu'il dit, ça ne peut être qu'une vraie, j'ai envie de dire, pas une assurance, mais pas loin, quoi. Je veux dire, c'est entre connaisseurs, ils doivent se reconnaître entre eux, parce qu'on a beau détester le personnage, il faut quand même reconnaître que le travail qu'il a fait à Lyon est quand même ça me coûte de le dire, c'est quand même du bon travail. Donc, espérons au final que ce ne soit pas mal placé, juste pour nous faire miroiter quelque chose qui finalement n'arriverait pas. Moi, au final, j'attends de voir. C'est comme tout. Ça fait effectivement des années qu'on parle de cette vente. Moi, j'ai même oublié depuis combien de temps. Je crois que ça fait 7 ans maintenant. J'attends de voir que ce soit signé. A priori, ça a l'air de tous les articles qu'on lit en ce moment. Je pense que c'est le projet qui a jamais été le plus proche de signer, hein, et qui a l'air, en plus, de tout le monde a l'air d'aller dans la bonne direction, dans la même direction. Pour que ça se fasse, donc espérons. Je suis pas très au fait de ce qu'a pu faire Gazidis avant dans ses autres clubs. J'ai lu comme tout le monde, hein, ce qu'il avait redressé Milan, qu'il avait fait du bon boulot à Arsenal aussi, même si d'avis des supporters de là-bas, bah, le travail il se fait sur du long terme, donc il commence par restructurer vraiment le club de fond en comble, ce qui va pas se traduire immédiatement par des résultats. Et c'est, je pense, que là qu'il faudra qu'on soit peut-être patient, parce que cette restructuration va se faire sur plusieurs mois, plusieurs années, et les résultats ont commencé à arriver, que ce soit Arsenal ou que ce soit Milan, sont arrivés quand même après pas mal d'années. Donc il faudra être patient. Je suis de l'avis de dissident, je pense que si on pouvait démarrer dès la Ligue 1, malgré tout, ça nous ferait quand même gagner un an. Ce serait pas négligeable. Et sinon, bah après, c'est comme tout. Tant que c'est pas signé, moi, j'ai pas envie de m'emballer trop, même si j'avoue que j'ai envie quand même d'y croire et de me sentir. Et je me sens un petit peu hypé par tout ce qu'on lit. Maintenant, attendons la signature qui, a priori, devrait intervenir après les barrages, quasiment juste après. Surtout de lire en détail le projet qui nous sera présenté à ce moment-là pour savoir qu'est-ce qu'il faudra attendre des prochains mois, prochaines années.
Oui, on verra si ça va au bout. A priori, c'est bien parti. Et puis, on aura peut-être au moment de la présentation de la stratégie une idée plus précise de ce qu'on peut espérer. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Merci de nous avoir écoutés, que ce soit en direct ou en podcast. Il nous reste 5 jours qui sont importants, peut-être pas décisifs pour l'avenir du club, mais qui sont importants évidemment. Et puis, Dissident disait que le stress n'était pas encore là. Moi non plus, mais par contre, je sens déjà qu'il va être là et qu'il sera très présent jeudi soir. Bonne fin de journée ou bonne fin de soirée à tous. À très bientôt pour probablement une dernière émission de la saison à l'issue des barrages. Et allez les Verts.